Balthazar Gracian, L'homme de cour, 201. Tous ceux qui paraissent fous le sont, et encore la moitié de ceux qui ne le paraissent pas. La folie s'est emparée du monde, et s'il y a tant soit peu de sagesse, c'est pure folie en comparaison de la sagesse d'en haut. Mais le plus grand fou est celui qui ne croit pas l'être, et en accuse tous les autres. Pour être sage, il ne suffit pas de le paraître à soi-même. Celui-là l'est qui ne pense pas l'être, et celui qui ne s'aperçoit pas que les autres voient, ne voit pas lui-même. Quelque plein que le monde soit de fous et de sots, il n'y a personne qui le croit être, ni même qui s'en soupçonne. 202. Les dits et les faits rendent un homme accompli. Il faut dire de bonnes choses et en faire de belles. L'un montre une bonne tête et l'autre un bon cœur, et l'un et l'autre naissent de la supériorité de l'esprit. Les paroles sont l'ombre des actions. La parole est à la femelle et faire est le mâle. Il vaut mieux être le sujet du panégyrique que le panégyriste. Il vaut mieux recevoir des louanges que d'en donner. Le dire est aisé, le faire est difficile. Les beaux faits sont la substance de la vie, et les beaux mots en sont l'ornement. L'excellence des faits est de durée, celle des dits est passagère. Les actions sont le fruit des réflexions. Les uns sont sages, les autres sont vaillants. 203. Connaître les excellences de son siècle. Elles ne sont pas en grand nombre. Il n'y a qu'un phénix dans le monde. En tout un siècle, il se voit à peine un grand capitaine, un parfait orateur, un sage. Et il faut plusieurs siècles pour trouver un excellent roi. Les médiocrités sont ordinaires, soit pour le nombre ou pour l'estime. Mais les excellences sont rares en tout, parce qu'elles demandent une perfection accomplie. Et que plus la catégorie est sublime, plus il est difficile d'en atteindre le plus haut degré. Plusieurs ont usurpé le surnom de grand à César et à Alexandre, mais en vain, car sans les faits, la voix du peuple n'est qu'un peu d'air. Il y a eu peu de Sénèque, et la renommée n'a célébré qu'un seul appel. 204. Ce qui est facile se doit entreprendre comme s'il était difficile. Et ce qui est difficile, comme s'il était facile. L'un de peur de se relâcher par trop de confiance, l'autre de peur de perdre courage à force de trop craindre. Pour manquer à faire une chose, il n'y a qu'à la compter pour faite. Au contraire, la diligence surmonte l'impossibilité. Quant aux grandes entreprises, il n'y faut pas raisonner. Il suffit de les embrasser quand elles se présentent, de peur que la considération de leurs difficultés ne les fasse abandonner. 205. Savoir jouer de mépris. Le vrai secret d'obtenir les choses qu'on désire est de les mépriser. D'ordinaire, on ne les trouve pas quand on les cherche. Au lieu qu'elle se présente d'elle-même quand on ne s'en soucie pas. Comme les choses de ce monde sont l'ombre du ciel, elles tiennent cette propriété de l'ombre, qu'elles fuient celui qui les suit et poursuivent celui qui les fuit. Le mépris est aussi la plus politique vengeance. C'est la maxime universelle des sages de ne se défendre jamais avec la plume, parce qu'elle laisse des traces qui tournent plus à la gloire des ennemis qu'à leur humiliation. Outre que cette sorte de défense fait plus d'honneur à l'envie que de mortification à l'insolence. C'est une finesse des petites gens de tenir tête à de grands hommes pour se mettre en crédit par une voie indirecte, faute d'y pouvoir être à bon droit. Bien des gens n'eussent jamais été connus si d'excellents adversaires n'eussent pas fait état d'eux. Il n'y a point de plus haute vengeance que l'oubli, car c'est ensevelir ces gens-là dans la poussière de leur néant. Les téméraires s'imaginent de s'éterniser en mettant le feu aux merveilles du monde et des siècles. L'art de réprimer la médisance, c'est de ne s'en point soucier. Y répondre, c'est se porter préjudice. S'en offenser, c'est se discréditer et donner à l'envie de quoi se complaire. Car il ne faut que cette ombre de défaut, sinon pour obscurcir entièrement une beauté parfaite, du moins pour lui ôter son plus vif éclat. 206. Il y a partout un vulgaire. À Corinthe même, et dans la famille la plus accomplie, et chacun l'expérimente dans sa propre maison. Il y a non seulement un vulgaire, mais encore un double vulgaire qui est le pire. Celui-ci a les mêmes propriétés que le commun vulgaire, de même que les pièces d'un miroir cassé ont toutes la même transparence, mais il est bien plus dangereux. Il parle en fou et censure en impertinent. C'est le grand disciple de l'ignorance, le parrain de la sottise et le proche parent de la charlatanerie. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'il dit, encore moins à ce qu'il pense. Il importe de le connaître pour pouvoir s'en délivrer, si bien que l'on n'en soit ni le compagnon, ni l'objet. Car toute sottise tient de la nature du vulgaire, et le vulgaire n'est composé que de sots. 207. User de retenue. Il faut prendre garde à son fait, surtout dans les cas imprévus. Les saillies des passions sont autant de pas glissants qui font trébucher la prudence. C'est là qu'est le danger de se perdre. Un homme s'engage plus en un moment de fureur ou de plaisir qu'en plusieurs heures d'indifférence. Quelquefois, une petite échauffourée coûte un repentir qui dure toute la vie. La malice d'autrui dresse des embûches à la prudence pour découvrir la terre. Elle se sert de cette sorte de torture pour tirer le secret du cœur le plus caché. Il faut donc que la retenue fasse la contrebatterie, et particulièrement dans les occasions chaudes. Il est besoin de beaucoup de réflexion pour empêcher une passion de se décharger. Celui-là est bien sage qui l'amène par la bride. Quiconque connaît le danger marche à pas comptés. Une parole paraît aussi offensante à celui qui la recueille et la pèse qu'elle paraît de peu de conséquences à celui qui l'a dit. 208. Ne point mourir du mal de fou. D'ordinaire, les sages meurent pauvres de sagesse. Au contraire, les fous meurent riches de conseils. Mourir en fou, c'est mourir de trop raisonner. Les uns meurent parce qu'ils sentent, et les autres vivent parce qu'ils ne sentent pas. En sorte que les uns sont fous parce qu'ils ne meurent pas de sentiments, et les autres parce qu'ils en meurent. Celui-là est fou qui meurt de trop d'entendement, si bien que les uns meurent d'être bons entendeurs, et les autres vivent de n'être pas entendus. Mais quoique beaucoup de gens meurent en fous, très peu de fous meurent. 209. Ne point donner dans la folie des autres. C'est l'effet d'une rare sagesse, car tout ce que l'exemple et l'usage introduisent a beaucoup de force. Quelques-uns, qui ont pu se garantir de l'ignorance particulière, n'ont pas su se soustraire à l'ignorance générale. C'est un dire commun que personne n'est content de sa condition, bien que ce soit la meilleure, ni mécontent de son esprit, quoique ce soit le pire. Chacun envie le bonheur d'autrui, faute d'être content du sien. Ceux d'aujourd'hui louent les choses d'hier, et ceux d'ici, celles de delà. Tout le passé paraît meilleur, et tout ce qui est éloigné est plus estimé. Aussi fou est celui qui se rit de tout, que celui qui se chagrine de tout. 210. Savoir jouer de la vérité. Elle est dangereuse, mais pourtant l'homme de bien ne peut pas laisser de la dire. Et c'est là qu'il ait besoin d'artifice. 210. Savoir jouer de la vérité. Elle est dangereuse, mais pourtant l'homme de bien ne peut pas laisser de la dire. Et c'est là qu'il ait besoin d'artifice. Les habiles médecins de l'âme ont essayé tous les moyens de l'adoucir, car lorsqu'elle touche au vif, c'est la quintessence de l'amertume. La discrétion développe là toute son adresse. Avec une même vérité, elle flatte l'un et assomme l'autre. Il faut parler à ceux qui sont présents, sous le nom des absents ou des morts. À bon entendeur, il ne lui faut qu'un signe. Et, quand cela ne suffira pas, le meilleur expédient est de se taire. Les princes ne se guérissent pas avec des remèdes amers. Il est de l'art de la prudence de leur dorer la pilule. 211. Au ciel tout est plaisir, en enfer tout est peine, le monde, comme mitoyen, tient de l'un et de l'autre. Nous sommes entre les deux extrémités, et ainsi nous tenons de toutes les deux. Il y a une alternative de sort. Ni tout ne saurait être bonheur, ni tout être malheur. Ce monde est un zéro. Tout seul, il ne vaut rien. Joint avec le ciel, il vaut beaucoup. C'est sagesse d'être indifférent à tous ces changements, parce que la nouveauté n'est point le fait des sages. Notre vie se joue comme une comédie. Sur la fin, elle vient à se dégager. Le point est de la bien finir. 212. Se réserver toujours la fin de l'art. Les grands maîtres usent de cette adresse lors même qu'ils enseignent leur métier. Il faut toujours garder une supériorité et rester le maître. En communiquant son art, il est besoin de le faire avec art. Il ne faut jamais épuiser la source d'enseigner, ni celle de donner. C'est par là que l'on conserve sa réputation et son autorité. En matière de plaire et d'enseigner, c'est un grand précepte à garder que d'avoir toujours de quoi paître l'admiration en poussant la perfection toujours plus avant. En toute profession, et particulièrement dans les emplois les plus sublimes, ça a été une grande règle de vivre et de vaincre que de ne pas se prodiguer. 213. Savoir contredire. C'est une excellente ruse quand on le sait faire, non pas pour s'engager, mais pour engager. C'est l'unique torture qui puisse faire faillir les passions. La lenteur à croire est un vomitif qui fait sortir les secrets. C'est la clé pour ouvrir le cœur le plus renfermé. La double sonde de la volonté et du jugement demande une grande dextérité. Un mépris adroit de quelques mots mystérieux d'un autre donne la chasse au plus impénétrable secret. et, par un agréable sucement, les fait venir jusque sur le bord de la langue pour les prendre dans les filets de l'artifice. La retenue de celui qui se tient sur ses gardes fait que son espion se retire à l'écart, et qu'ainsi il découvre la pensée d'autrui, qui autrement était impénétrable. Un doute affecté est une fausse clé de fine trempe par où la curiosité entre en connaissance de tout ce qu'elle veut savoir. En matière d'apprendre, c'est un trait d'adresse au disciple que de contredire à son maître, d'autant que c'est une obligation qu'il lui impose de s'efforcer à expliquer plus clairement et plus solidement la vérité. De sorte que la contradiction modérée donne occasion à celui qui enseigne d'enseigner à fond. 214. D'une folie, n'en pas faire deux. Il est très ordinaire, après une sottise faite, d'en faire quatre autres pour la rhabiller. L'on excuse une impertinence par une autre plus grande. La sottise est de la race du mensonge, ou celui-ci de la race de la sottise. Pour en soutenir une, il en faut beaucoup d'autres. La défense d'une mauvaise cause a toujours été pire que la cause même. C'est un mal plus grand que le mal même de ne le savoir pas couvrir. C'est le revenu des imperfections d'en mettre beaucoup d'autres à rente. L'homme le plus sage peut bien faillir une fois, mais non pas deux, en passant et par inadvertance, mais non de sens rassis. 215. Avoir l'œil sur celui qui joue de seconde intention. C'est une ruse d'homme de négociation d'amuser la volonté pour l'attaquer, car elle est vaincue dès qu'elle est convaincue. On dissimule sa prétention pour y parvenir. On se met le second en rang pour être le premier dans l'exécution. On a son coup sur l'inadvertance de son adversaire. Ne laisse donc pas dormir ton attention, puisque l'intention de ton rival est si éveillée. Et si l'intention est seconde en dissimulation, il faut que le discernement soit premier en connaissance. C'est à la précaution de reconnaître l'artifice dont la personne se sert et de remarquer les visées qu'elle prend pour frapper au but de sa prétention. Comme elle propose une chose et en prétend une autre, et qu'elle se tourne et retourne pour arriver finement à ses fins, il faut bien regarder à ce qu'on lui accorde. Et quelquefois même, il sera bon de lui donner à entendre que l'on a compris sa pensée. 216. Parler net. Cela montre non seulement du dégagement, mais encore de la vivacité d'esprit. Quelques-uns conçoivent bien et enfantent mal, car sans la clarté, les enfants de l'âme, c'est-à-dire les pensées et les expressions, ne sauraient venir au jour. Il en est de certaines gens comme de ces pots qui tiennent beaucoup et donnent peu. Au contraire, d'autres en disent encore plus qu'ils n'en savent. Ce que la résolution est dans la volonté, l'expression l'est dans l'entendement. Ce sont deux grandes perfections. Les esprits nets sont plausibles. Souvent, les esprits confus ont été admirés pour n'avoir pas été entendus. Quelquefois, l'obscurité sied bien pour se distinguer du vulgaire. Mais comment les autres jugeront-ils de ce qu'ils écoutent si ceux qui parlent ne conçoivent pas eux-mêmes ce qu'ils disent? 217. Il ne faut ni aimer ni haïr pour toujours. Vis aujourd'hui avec tes amis comme avec ceux qui peuvent être demain tes pires ennemis. puisque cela se voit par l'expérience, il est bien juste de donner dans la prévention. Garde-toi de donner des armes aux transfuges de l'amitié, d'autant qu'ils t'en font la plus cruelle guerre. Au contraire, à l'égard de tes ennemis, laisse toujours une porte ouverte à la réconciliation, c'est-à-dire celle de la galanterie, qui est la plus sûre. Quelquefois, la vengeance d'auparavant a été la cause du regret d'après, et le plaisir, pris à faire du mal, s'est tourné en déplaisir de l'avoir fait. 218. Ne rien faire par caprice, mais tout avec circonspection. Tout caprice est une imposthume. C'est le fils aîné de la passion, qui fait tout à rebours. Il y a des gens qui tournent tout en petite guerre. Dans la conversation, ce sont des bandouliers. De tout ce qu'ils font, ils en voudraient faire un triomphe. Ils ne savent ce que c'est d'être pacifiques. En matière de commander et de gouverner, ils sont pernicieux, parce que, du gouvernement, ils en font une ligue offensive, et de ceux qu'ils devraient tenir en qualité d'enfants, ils en forment un parti d'ennemis. Ils veulent tout mener à leur mode, et tout emporter, comme chose due à leur adresse. Mais dès que l'on vient à découvrir leur humeur paradoxe, l'on se met en garde contre eux. Leurs chimères sont relancées, et par conséquent, bien loin d'arriver à leur but, ils ne remportent qu'un amas de chagrin, chacun aidant à les mortifier. Ces pauvres gens ont le sens blessé, et quelquefois aussi le cœur gâté. Le moyen de se défaire de tels monstres est de s'enfuir aux antipodes, dont la barbarie sera plus supportable que l'humeur féroce de ces gens-là. 219. Ne point passer pour homme d'artifice. Véritablement, on ne saurait vivre aujourd'hui sans en user. Mais il faut plutôt choisir d'être prudent que d'être fin. L'humeur ouverte est agréable à tout le monde, mais bien des gens n'en veulent point chez eux. La sincérité ne doit jamais dégénérer en simplicité, ni la sagacité en finesse. Il vaut mieux être respecté comme sage que craint comme trop pénétrant. Les gens sincères sont aimés, mais trompés. Le plus grand artifice est de bien cacher ce qui passe pour tromperie. La candeur florissait dans le siècle d'or. La malice règne à son tour dans ce siècle de fer. Le renom de savoir ce que l'on a à faire est honorable et attire la confiance. Mais celui d'être artificieux est sophistiqué et engendre la défiance. 220. Se couvrir de la peau du renard quand on ne peut pas se servir de celle du lion. Savoir céder au temps, c'est excéder. Celui qui vient à bout de son dessein ne perd jamais sa réputation. L'adresse doit suppléer à la force. Si l'on ne saurait aller par le chemin royal de la force ouverte, il faut prendre la route détournée de l'artifice. La ruse est bien plus expéditive que la force. Les sages ont plus souvent vaincu les braves que les braves n'ont vaincu les sages. Quand une entreprise vient à manquer, la porte est ouverte au mépris. 221. N'être point trop prompt à s'engager, ni à engager autrui. Il y a des gens nés pour broncher, et pour faire broncher les autres contre la bienséance. Ils sont toujours à point pour faire des sottises. ils ont une grande facilité à donner un rude choc, mais ils se brisent malheureusement. Ils n'en sont pas quittes pour 100 querelles par jour. Comme ils ont l'humeur à contrepoil, ils contredisent à tout et à tous. Ayant le jugement chaussé de travers, ils désapprouvent tout. Il n'appartient qu'à ces grands aventuriers de prudence de ne rien faire à propos et de censurer tout. Que de monstres dans le vaste pays de l'impertinence. 222. L'homme retenu a toute l'apparence d'être prudent. La langue est une bête sauvage qu'il est très difficile de remettre à la chaîne quand une fois elle est échappée. C'est le pouls par où les sages connaissent la disposition de l'âme. C'est là que les personnes intelligentes tâtent le mouvement du cœur. Le mal est que celui qui devait être le plus discret l'est le moins. Le sage s'épargne des chagrins et des engagements et montre par là combien il est maître de soi-même. Il agit avec circonspection. C'est un Janus en équivalent et un Argus en discernement. Momus eût eu meilleure raison de dire qu'il manquait des yeux aux mains que de dire qu'il fallait une petite fenêtre au cœur. 223. N'être pas trop singulier, ni par affectation, ni par inadvertance. Quelques gens se font remarquer par leur singularité, c'est-à-dire par des actions de folie, qui sont plutôt des défauts que des différences. Et comme quelques-uns sont connus de tout le monde, à cause qu'ils ont quelque chose de très laid au visage, ceux-ci le sont par je ne sais quel excès qui paraît dans leur contenance. Il ne sert à rien de se singulariser, sinon à se faire passer pour un original impertinent, ce qui provoque alternativement la moquerie des uns et la mauvaise humeur des autres. 224. Ne prendre jamais les choses à contrepoil, bien qu'elles y viennent. Tout a son droit et son envers. La meilleure chose blesse si on la prend à contresens. Au contraire, la plus incommode accommode si elle est prise par le manche. Bien des choses ont fait de la peine qui eussent donné du plaisir si l'on en eût connu le bon. Il y a en tout du bon et du mauvais. L'habileté de savoir trouver le premier. Une même chose a différentes faces, selon qu'on la regarde différemment. Et de là vient que les uns prennent plaisir à tout et les autres à rien. Le meilleur expédient contre les revers de la fortune, et pour vivre heureux en tout temps et en tous emplois, est de regarder chaque chose par son bel endroit. 225. Connaître son défaut dominant. Chacun en a un qui fait un contrepoids à sa perfection dominante, et si l'inclination le seconde, il domine en tyran. Que l'on commence donc à lui faire la guerre en la lui déclarant, et que ce soit par un manifeste, car s'il est connu, il sera vaincu, et particulièrement si celui qu'il a le juge aussi grand qu'il paraît aux autres. Pour être maître de soi, il est besoin de réfléchir sur soi. Si une fois cette racine des imperfections est arrachée, l'on viendra bien à bout de toutes les autres. 226. Attention à engager. La plupart des hommes ne parlent ni n'agissent point selon ce qu'ils sont, mais selon l'impression des autres. il n'y a personne qui ne soit plus que suffisant pour persuader le mal. D'autant que le mal est cru très facilement, quelquefois même qu'il est incroyable. Tout ce que nous avons de meilleur dépend de la fantaisie d'autrui. Quelques-uns se contentent d'avoir la raison de leur côté, mais cela ne suffit pas, et par conséquent, il faut le secours de la poursuite. Quelquefois, le soin d'engager coûte très peu et vaut beaucoup. Avec des paroles, on achète de bons effets. Dans cette grande hôtellerie du monde, il n'y a point de si petits ustensiles dont il n'arrive d'avoir besoin une fois l'an. Et si peu qu'il vaille, il sera très incommode de s'en passer. Chacun parle de l'objet selon sa passion. 277. N'être point homme de première impression. Quelques-uns se marient si follement avec la première information que toutes les autres ne leur sont plus que des concubines. Et comme le mensonge va toujours le premier, la vérité ne trouve plus de place. L'entendement et la volonté ne se doivent jamais remplir ni de la première proposition, ni du premier objet, ce qui est la marque d'un pauvre fond. Quelques gens ressemblent à un pot neuf qui prend pour toujours l'odeur de la première liqueur, bonne ou mauvaise, qu'on y verse. Quand cette faiblesse vient à être connue, elle est pernicieuse parce qu'elle donne pied aux artifices de la malice. Ceux qui ont de mauvaises intentions se hâtent de donner leur teinture à leur crédulité. Il faut donc laisser une place vide pour la révision. Qu'Alexandre garde son autre oreille pour la partie adverse, qu'il laisse une porte ouverte à la seconde et à la troisième information. C'est une marque d'incapacité de s'en tenir à la première, et même un défaut qui approche fort de l'entêtement. 228. N'avoir ni le bruit, ni le renom d'avoir méchante langue, car c'est passé pour un fléau universel. Ne sois point ingénieux aux dépens d'autrui, ce qui est encore plus odieux que pénible. Chacun se venge du médisant en disant mal de lui. Et comme il est seul, il sera plutôt vaincu que les autres qui sont en grand nombre ne seront convaincus. Le mal ne doit jamais être un sujet de contentement ni de commentaire. Le médisant est haï pour toujours. Et si quelquefois de grands personnages conversent avec lui, c'est plutôt pour le plaisir d'entendre ses lardons que par aucune estime qu'il fasse de lui. Celui qui dit du mal s'en fait toujours dire encore davantage. 229. Savoir partager sa vie en homme d'esprit. Non pas selon que se présentent les occasions, mais par prévoyance et par choix. Une vie qui n'a point de relâche est pénible comme une longue route où l'on ne trouve point d'hôtellerie. Une variété, bien entendu, la rend heureuse. La première pause doit se passer à parler avec les morts. Nous naissons pour savoir et pour nous savoir nous-mêmes. Et c'est par les livres que nous l'apprenons au vrai et que nous devenons des hommes faits. La seconde station se doit destiner aux vivants, c'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'il y a de meilleur dans le monde et en tenir registre. Tout ne se trouve pas dans un même lieu. Le Père universel a partagé ses dons, et quelquefois, il s'est plu à en faire largesse au pays le plus misérable. La troisième pause doit être pour nous. Le Père universel a partagé ses dons, et quelquefois, il s'est plu à en faire largesse au pays le plus misérable. La troisième pause doit être toute pour nous. Le suprême bonheur est de philosopher. 230. Ouvrir les yeux quand il est temps. Tous ceux qui voient n'ont pas les yeux ouverts, ni tous ceux qui regardent ne voient pas. De réfléchir trop tard, ce n'est pas un remède, mais un sujet de chagrin. Quelques-uns commencent à voir quand il n'y a plus rien à voir. Ils ont défait leur maison et dissipé leurs biens avant que de se faire eux-mêmes. Il est difficile de donner de l'entendement à qui n'a pas la volonté d'en avoir, et encore plus de donner la volonté à qui n'a point d'entendement. Ceux qui les environnent jouent avec eux comme avec des aveugles, et toute la compagnie s'en divertit. Et, d'autant qu'ils sont sourds pour ouïr, ils n'ouvrent jamais les yeux pour voir. Cependant, il se trouve des gens qui fomentent cette insensibilité parce que leur bien-être consiste à faire que les autres ne soient rien. Malheureux le cheval dont le maître n'a point d'yeux. Il sera difficile qu'il engraisse. 231. Ne laissez jamais voir les choses qu'elles ne soient achevées. Tous les commencements sont défectueux, et l'imagination en reste toujours prévenue. Le souvenir d'avoir vu un ouvrage encore imparfait ne laisse pas la liberté de le trouver beau quand il est fait. Jouir tout à la fois d'un grand objet, c'est un obstacle à bien juger de chaque partie. Mais aussi, c'est un plaisir qui remplit toute l'idée. Ce n'est rien avant que d'être tout, et quand une chose commence d'être, elle est encore bien avant dans le rien. Voir apprêter le manger le plus exquis, cela provoque plus le dégoût que l'appétit. Que tout habile maître se garde donc de bien laisser voir ses ouvrages en embryon, qu'il apprenne de la nature à ne les point exposer, qu'il ne soit en état de pouvoir paraître.